Bonsoir, la République démocratique du Congo tente une fois encore de sauver ses entreprises publiques. Le gouvernement souminois décide de rompre avec la répartition par quota politique, privilégiant désormais le mérite, la compétence et la transparence dans la gestion des entreprises publiques. C'est dans ce cadre qu'il a lancé, via le ministère du portefeuille, un processus compétitif de sélection des mandataires publics dans 15 entreprises de l'État, parmi lesquelles la SNEL, la Régie des Eaux, la RVA, l'ONATRA ou encore la SNCC. Dans un communiqué parvenu ce mercredi à Radio Capi, le ministre du portefeuille a précisé que les candidatures sont ouvertes jusqu'au 14 août 2026. Les postes concernent des candidats âgés de 25 ans au moins et 70 ans au plus. Les dossiers doivent être envoyés en ligne sur le site officiel du ministère du portefeuille www.portefeuille.gouv.cd. Après le dépôt des candidatures, l'évaluation se fera en 4 étapes éliminatoires. Vérification de l'éligibilité, analyse du dossier et du parcours professionnel, épreuve écrite destinée à évaluer les capacités d'analyse et de raisonnement, puis entretien devant un panel d'experts chargé d'apprécier les compétences techniques, managériales et comportementales des candidats. Un rapport de classement motivé sera ensuite transmis au président de la République, chef de l'État, en vue de la nomination par ordonnance présidentielle. Quelle analyse faire de cette énième tentative du gouvernement congolais pour sauver ses entreprises publiques? C'est le thème de ce soir. Et pour en parler, nous serons avec Lems Kamoigna, économiste et ancien mandataire public de la République démocratique du Congo. Lems Kamoigna, bonsoir.
Bonsoir.
Dans ce débat aussi, Alain Poutou, bonsoir.
Bonsoir, monsieur le journaliste.
Alain Poutou, vous êtes expert en reconversion professionnelle, coordonnateur et formateur de Africa RH Consulting, cabinet d'expertise en ressources humaines et appui aux personnes en transition de travail. Et enfin, pour clore ce casting, Polydor Tangeli, expert en matière de travail, secrétaire exécutif du groupe Mossala, groupe d'experts en intervention psychosociale en faveur des travailleurs, des demandeurs d'emploi et des jeunes désœuvrés. Polydor Tangeli devrait en principe nous rejoindre pour l'émission de ce soir. Nous le saluons là où il est et nous savons qu'il pourra sans doute nous rejoindre d'un moment à l'autre. Mesdames et messieurs, bienvenue dans votre émission.
Vous pouvez continuer à envoyer vos réactions à tech@radiookapi.net.
Bonsoir à tous. La République démocratique du Congo tente une fois encore de sauver ses entreprises publiques. Le gouvernement souminois décide de rompre avec la répartition par quota politique, privilégiant désormais le mérite, la compétence et la transparence dans la gestion des entreprises publiques. C'est dans ce sens qu'il a lancé, le gouvernement, via le ministère du portefeuille, un processus compétitif de sélection des mandataires publics dans 15 entreprises de l'État, parmi lesquelles la SNEL, la Régie des Eaux, la RVA, l'ONATRA ou encore la SNCC. Les détails avec vous, Blaise Ndongala.
Dans ces documents, la ministre du portefeuille explique que les candidats doivent notamment être de nationalité congolaise, âgés d'au moins 25 ans au 31 décembre 2026, sans dépasser 70 ans à cette même date. Elle invite les personnes remplissant les critères à finaliser leur candidature dans les délais impartis et à s'assurer que leur dossier est complet avant validation. Les processus recherchent des profils présentant une bonne moralité, une réputation professionnelle irréprochable, ainsi que des compétences techniques, intellectuelles et managériales. Les candidats doivent également justifier d'une expérience avérée dans les secteurs concernés, maîtriser le français oral comme écrit et disposer d'une connaissance des outils informatiques de base. Les candidatures se font en ligne sur les sites officiels du ministère du portefeuille www.portefeuille.gouv.cd. Les candidats doivent cliquer sur postuler, remplir le formulaire en ligne et joindre les documents requis. Après validation, il doit télécharger son acquisé des dépôts. L'évaluation se déroulera en 4 étapes éliminatoires, à savoir vérification de l'éligibilité, analyse du dossier, épreuve écrite, puis entretien devant un panel d'experts chargés d'apprécier les compétences comportementales des candidats.
Lems Kamoya, économiste et ancien mandataire public en République démocratique du Congo, que soulève en vous cette nouvelle initiative de sélection des mandataires pour diriger les entreprises publiques de la RDC?
Merci pour la question. En fait, c'est une initiative qu'il faudra saluer. Je crois que si ma mémoire est bonne, ça devra être la deuxième fois que le gouvernement procède à une telle expérience. Moi-même, je me rappelle quand je n'étais pas encore mandataire, j'étais au comité de pilotage de la réforme des entreprises publiques en 2006-2007. On avait mis en place un tel processus. L'objectif qui est mis, c'est comme c'est motivé par la ministre du portefeuille, c'est arriver à sélectionner les candidats sans pour autant que cela ne vienne d'une influence politique ou l'appartenance politique. Pourquoi cet objectif? Parce qu'on pense que lorsque un candidat qui devient mandataire public passe par un processus compétitif de sélection, à ce moment-là, il sait que il est à la tête de l'entreprise, non pas parce qu'il a été recommandé ou il représente son parti, il est là pour montrer de quoi il est capable. Il jouit d'une certaine autonomie et d'une certaine indépendance et il a tout le temps de montrer ses capacités dans la gestion de l'entreprise et faire voir ce qu'il a comme compétence afin de faire avancer l'entreprise. Et il est totalement départi de ces emprises qui sont là au niveau politique. Donc l'objectif est clair, c'est-à-dire arriver à dépolitiser la gestion des entreprises publiques, parce que lorsqu'elles sont politisées, on se rend compte que les gestionnaires, tout ce qui l'intéresse, c'est chercher des parapluies, c'est chercher à nourrir les personnes qui l'ont amené là-bas, ou son parti politique, l'autorité morale, ou le président de son parti, ou de son regroupement politique. Il est plus redevable à eux que avoir des performances. Il peut ne pas y avoir des performances au sein de l'entreprise, mais le plus important, qu'il protège son fauteuil en recommençant ceux qui l'ont mis là-bas. Mais lorsqu'il est sélectionné suite à un processus qui est clair, il sait que c'est son savoir-faire, c'est sa compétence qui sont mises en avant. Il est en train de jouer sa crédibilité pour montrer que il mérite réellement ses postes et il peut œuvrer en toute indépendance et montrer de quoi il est capable. C'est pourquoi c'est une mesure qui est vraiment saluée. En théorie, moi je l'ai dit, je vais le dire en théorie parce que on avait vu, même quand on avait fait avant, une fois que ces gens avaient été sélectionnés, recrutés, quelques temps après, tout le monde est parti chercher un parapluie politique. Et finalement, on a senti que l'effet qui était escompté n'est pas arrivé. C'est pourquoi j'ai apprécié le thème de votre émission. On ne voit pas seulement les profils, on regarde aussi l'environnement. Donc, dans les faits, c'est une mesure à saluer, mais faudra-t-il qu'on aille jusqu'au bout? Et même les candidats qui vont compétir ou qui seront par la suite sélectionnés, ils doivent savoir qu'ils doivent ces postes par leurs compétences, par leurs mérites, par leur expérience. Ils n'ont pas besoin pour cela d'aller encore chercher à avoir ces parapluies ou cette protection politique qui va encore nous repousser et nous ramener à faire en sorte que ces postes-là où la gestion d'entreprise soit politisée. Donc, il faut veiller non seulement pendant ces moments de sélection, mais plus après la sélection que ces candidats demeurent effectivement indépendants, qu'ils soient des vrais technocrates, qu'ils soient jugés sur les résultats, qu'il y ait des contrats de performance qui sont signés avec eux, qu'on voit de quoi ils sont capables et qu'ils ne soient pas sous l'influence politique et qu'ils ne soient pas trop dérangés par les politiques pour leur dire « Attendez, vous êtes dans ceci, s'il n'y a pas ceci, vous n'allez pas faire cela. » Alors, je crois que ça, c'est très, très important pour que cet esprit qui est dans cette initiative puisse continuer même au-delà de la sélection. Autrement, on va saluer l'initiative, mais après, on va déchanter parce que il y aura encore cette influence politique qui va retomber dessus.
Lems Kamoya, vous évoquez là l'expérience du COPIREP qui, entre guillemets, a plus ou moins échoué dans son objectif, c'est-à-dire de rendre indépendants les gestionnaires des entreprises et d'en sélectionner parmi les plus qualifiés et non liés forcément à la politique. Alors, cette expérience, qui était une belle expérience, a entre guillemets échoué ou n'a pas donné les résultats escomptés. Pourquoi, selon vous, pensez-vous que la RDC a encore voulu refaire la même expérience?
Oui, d'abord, je dois rectifier. Ce C'est-à-dire, les copyrep, on avait sollicité ces services pour sélectionner les candidats selon des critères, les mêmes critères que nous les voyons aujourd'hui. Ce sont les candidats eux-mêmes, après la sélection, au lieu de se considérer comme étant totalement libres, comme ayant été nommés suivant leurs compétences, tout le monde est parti se réfugier derrière les politiques, chercher encore des couvertures politiques. C'est ce que je me suis dit. Est-ce que cette fois-ci, nous pouvons faire un effort pour qu'on ne retombe pas dans cette erreur qui est arrivée ensuite? C'est pourquoi les mandataires qui doivent être sélectionnés, il faudrait que ces mandataires comprennent. Donc, c'est quelque chose qui doit se jouer à deux niveaux, si je dois être plus clair. Le premier niveau, c'est le niveau du mandataire lui-même. Il doit se considérer que si je suis aujourd'hui directeur général adjoint ou président du conseil d'administration, je le suis suite à mon expérience, à ma compétence, je suis un technocrate et je dois montrer de quoi il s'agit. Je peux arriver à travailler et à gérer en toute indépendance, sans peur de se dire que je serai bousculé par les politiques. Cet esprit est très important et qu'ils s'interdisent d'aller chercher un parapluie politique. D'autre part, c'est que des instructions au niveau du gouvernement soient données pour éviter que ces mandataires, une fois qu'ils sont là, on commence à les appeler pour dire « vous devez cotiser, n'oubliez pas que vous faites partie d'un gouvernement, il y a tout un pouvoir en place, sans ce pouvoir vous ne serez pas là ». Ce sont ces types de menaces-là qui font que ces mandataires se sentent en insécurité. Ils se disent « ah, donc je comprends que ma technicité à elle seule elle ne suffit pas, même si je suis là suite à mes compétences, mais si… » Vous connaissez, passez-moi les termes, si je ne mange pas avec les autres ou si je ne fais pas manger ceux-là qui gèrent aujourd'hui, qui tiennent les pouvoirs aujourd'hui, je risque de perdre mon poste. Alors, les réflexes de survie commencent à remonter à la surface et le mandataire qui a été sélectionné suivant une base compétitive, suivant ses compétences, il commence plutôt à regarder, chaque mois je dois cotiser, chaque mois je dois voir qui sont ceux-là qui sont les plus forts du pouvoir, du régime, je dois être avec eux, je dois essayer de songer à eux. Et là, c'est la porte ouverte et on va arriver à échouer cela. C'est pourquoi, comme on a déjà eu à vivre cela par le passé, j'aimerais tirer cette sonnette d'alarme en disant, nous saluons, mais essayons de prévenir que on n'arrive plus à retomber dans cela, que cette option gouvernementale soit maintenue jusqu'à la fin, qu'on dise aux mandataires que s'ils ont des menaces, s'ils sont terrorisés ou si on veut les mettre dans ces conditions-là, il doit y avoir une instance auprès de laquelle ils doivent aller dire, voilà, on ne sait pas travailler normalement parce qu'il y a des politiques qui nous bousculent, parce qu'il y a telle personne, telle partie qui nous bouscule. Et lui-même aussi doit se dire, je dois travailler pour montrer de quoi je suis capable, que je me prouve que ce poste, je l'ai mérité et je suis en mesure d'amener la société ou l'entreprise vers une certaine performance technique et financière. Cet esprit, c'est très, très important. S'il n'y a pas cela, en tout cas, nous risquons encore de déchanter comme cela a été le cas il y a 20 ans.
Merci, Lems Kamoya. Vous restez avec nous dans cet échange. Alain Poutou, expert en reconversion professionnelle, coordonnateur et formateur de Africa RH Consulting, cabinet d'expertise en ressources humaines et appui aux ressources en transition de travail. À vous aussi, quelle est votre réaction de voir que la RDC, le gouvernement, songe à des moyens pour rendre les entreprises publiques compétitives en mettant à leur tête des technocrates?
Merci beaucoup, monsieur le journaliste. J'aborde dans le même sens que mon co-débatteur, monsieur Lems Kamoya, ce qu'il vient de dire, il a tout à fait raison. Parce qu'ici, il faut sensibiliser à deux niveaux. Il y a aussi au niveau de ministre des tutelles, en fait. Nous saluons la décision, effectivement, mais on reste dubitatif dans la matérialisation de cette décision. Ce qui vient de dire est fondamental. Ce qui fait que le mandataire, parfois, ils ne sont pas performants sur le terrain, c'est parce qu'ils subissent, effectivement, de l'influence politique, notamment de ministres et de tutelles, en fait. Mais la question qu'on doit se poser, parce que vous avez listé un certain nombre d'entreprises ici, il y a 15, mais ces mêmes entreprises, si on comprend très bien, il y a déjà des mandataires qui ont été nommés, qui sont actuellement en fonction. est-ce que sont-ils concernés aussi par les processus qui vient d'être lancés ou ils ne sont pas concernés? S'ils ne sont pas concernés, à quel moment ils doivent démissionner? Parce que toutes ces entreprises, il y a déjà des mandataires en place. Donc, nous saluons la décision, mais nous restons dubitatifs, puisqu'on sait comment ça se passe parfois. Il a parlé de l'expérience des copyrep, ce qu'il dit, c'est pas net. Il a des éléments factuels par rapport à son expérience avec copyrep. Sinon, c'est vraiment une décision à saluer et nous souhaitons à ce que les processus puissent vraiment être objectifs et transparents. Au besoin, parce que moi j'ai suivi les récits que vous venez de faire, je n'ai pas entendu à quel moment on doit publier les résultats des personnes, des candidats qui seront retenus avant leur nomination. Ce serait intéressant aussi qu'on puisse afficher les résultats de personnes qui poursuivent, qu'on voit très bien qui sont les candidats qui ont compéti. Et lorsque le processus va arriver à son avant-dernière étape, qu'on puisse aussi afficher la liste des personnes retenues, de telle sorte que lorsque on va les nommer, que les gens ne soient pas surpris, qu'on puisse pas trouver dedans soit les mêmes personnes qui étaient dans ces fonctions-là, qu'ils reviennent encore, ou alors
qu'il n'y ait pas débat entre ceux qui seront officiellement publiés comme vainqueurs et ceux qui figureront dans l'ordonnance présidentielle confirmant ces personnes.
Et tout à fait, tout à fait. Tout à fait. Donc, nous souhaitons que le processus vraiment soit transparent, objectif, étape par étape.
D'accord. Mais Alain Poutou, tout à l'heure, hein, nous avons constaté ensemble que l'expérience CopyRep n'a pas produit les effets souhaités, c'est-à-dire l'indépendance de ces mandataires, de ces technocrates, et une gestion basée sur les standards de bon management. Mais pourquoi, selon vous, vous pensez que quelques années après, le gouvernement de la RDC veut refaire la même expérience?
Bon, je ne dirais pas tout à fait la même expérience parce que je ne sais pas, ils vont confier les processus à quelle organisation. Est-ce qu'ils vont nommer une commission de recrutement et de sélection rattachée soit au ministère du portefeuille ou alors c'est un cabinet indépendant? Donc ça, j'ai pas entendu ça, j'ai pas vu ça quelque part, même dans ce que vous venez de faire comme commentaire ici. Je sais pas à qui est-ce que on va confier l'implémentation du processus. Est-ce que ce sont des experts dans les domaines qui seront des consultants ou des experts techniques rattachés au ministère du portefeuille, ou il y a une cellule au niveau du portefeuille qui s'occupe de recrutement de mandataires publics.
Mais pour que justement l'État puisse atteindre les objectifs souhaités, c'est-à-dire de la transparence, de l'indépendance et surtout de l'expertise basée sur les règles de gestion comme il se doit d'une entreprise, comment ça se fait généralement ou comment ça doit se faire dans les standards reconnus là où ça marche bien?
En fait, le processus, hein, les conditions générales d'éligibilité, les étapes de la procédure, en fait, les étapes sont claires. Mais il y a, je sais pas à quel moment ils ont mis à la disposition de tous ceux qui sont intéressés, parce que pour les cas de mandataires publics, je crois que Monsieur Kamoya pourra me compléter, il y a les fiches de mandat. Par exemple, qui est-ce qu'on veut recruter? On veut recruter un PCA, on veut recruter un DG ou un DGA, on veut recruter les administrateurs. Si oui, à chaque fonction, on devrait avoir la fiche de mandat pour que ces gens-là sachent qu'est-ce qu'on attend d'eux. Si on était dans l'état d'un contrat de travail dans une entreprise, on parlerait du job description. Parce que il y a parfois, si quelqu'un postule après avoir pris connaissance des objectifs du poste, la description des tâches et les profils recherchés. On croit bien que ceux là qui poursuivent savent déjà ce qu'on attend d'eux, contrairement à ce qui s'est passé avant. Même lorsque vous êtes en train de suivre les nominations, on dit après avoir étudié les dossiers de l'intéressé. Mais bon, on ne voit pas quelque part là où l'intéressé a pris connaissance, en fait, de la fiche de poste ou la fiche de mandat, pour qu'il sache ce qu'on attend de notre humble avis. Ce qui fait parfois que sur le terrain, les résultats ne sont pas intéressants. C'est sûrement parce que...
Allô, Alain Poutou, vous êtes toujours votre ligne de...
Un nombre de gens, oui. Peut-être, qui ne correspondent pas totalement au profil recherché.
Merci, Alain.
Peut-être qu'ils ont...
Est-ce que vous êtes là? Votre ligne téléphonique s'est dégradée, on va essayer de vous rattraper entre-temps. Polydor Tangeli, expert en matière de travail, secrétaire exécutif du groupe Mossala, groupe d'expertise en intervention psychosociale en faveur des travailleurs, des demandeurs d'emploi et des jeunes désœuvrés. Votre commentaire sur cette énième initiative de l'État de la RDC.
Merci, Donna. Je salue mes deux collaborateurs, M. Kamoania et M. Boutou, qui sont du même domaine que moi. Au fait, s'il faut placer un mot par rapport à la thématique d'aujourd'hui, je dois en toute sincérité saluer le fait que le gouvernement prend conscience de la valeur de l'homme qui doit gérer une institution. Et qu'il faut une remise en question, comprendre qu'on a commis des erreurs et essayer de refaire les choses en tirant les leçons du passé. Et c'est un esprit progressiste qui consiste à une remise en question de ce qu'on a fait. Et je crois que les pays qui sont développés ont opté de cette manière-là. Et comme le développement, c'est le résultat d'un cumul des efforts réalisés dans les temps, et c'est quelque chose à souhaiter, mais cela ne peut pas nous empêcher d'émettre un avis critique par rapport à ce qui a été fait et suggérer des recommandations sur ce qu'il y a à faire. Donnant comme mes co-débatteurs l'ont dit, il faut vraiment qu'on tire les leçons du passé, et tirer les leçons du passé consistera en premier lieu à ne pas mettre la charrue devant le bœuf. Puisqu'au fait, ici, la même cause pose le même résultat. Et là, il n'est pas bon que l'on déclenche un processus de recrutement sans revoir le cadre organique, le cadre juridique qui légifère les mandataires. La question du portefeuille, effectivement. Aujourd'hui, le cadre légal dans lequel les mandataires sont entrés de gérer nos institutions ne leur est pas favorable malgré leurs compétences, malgré tout ce qu'ils peuvent. Je prends pour cas, lorsque vous êtes mandataire et que vous dépendez essentiellement de la décision de votre ministre, ça vous miniaturise, ça vous infantilise, de sorte que vous êtes à sa solde. Voilà pourquoi je pense que on devait revoir le régime disciplinaire en ce qui concerne les mandataires. Ça, c'est une première proposition. Revoir le régime disciplinaire de sorte que l'autorité de tutelle ne soit qu'une autorité de résonance, qu'il y ait une instance, par exemple, comme les conseils des ministres, où les problèmes graves sont posés. Les problèmes qui exigent le changement du personnel recruté soient posés et que plusieurs sensibilités soient mises en place, mises en branle plutôt, pour lever une décision dont l'autorité de tutelle sera l'exécutant. ça valorise le collaborateur qui est le mandataire et ça permet une certaine indépendance, une certaine objectivité. Ça, c'est un premier élément. Un deuxième élément au niveau du cadre légal, mais ce mandataire qui est recruté, malgré ses compétences, il est venu de Harvard, il est venu de part et d'autre. Il travaille dans quel environnement? Quand le conseil d'administration est essentiellement constitué des politiciens. Et vous savez, les politiciens jouent un intérêt. Il vient exécuter les mandats qu'il a reçus de son parti politique. Surtout que ces mandataires sont les militants des partis politiques. Et ce sont eux qui font le monitoring de l'action managériale, quelquefois technique, du mandataire. Donc, à ce niveau, il faut affirmer le cadre juridique pour que le monitoring soit fait par des semblables, par des techniciens qui ont les mêmes lunettes que le mandataire qui a été recruté et qui a peut-être une longueur d'avance par rapport aux militants des partis politiques. Donc, j'insiste que les experts du secteur du portefeuille, les experts du gouvernement, les experts indépendants s'assoient d'abord pour questionner la faiblesse de notre cadre organique. J'en ai élucidé des, mais il y en a plusieurs qui ne peuvent pas permettre au mandataire d'aiser facilement, malgré les diplômes qu'il peut avoir, malgré tout ce que vous pouvez reconnaître comme compétence de sa part. Mais au-delà de ça, il faudrait ici qu'on insiste sur le fond psychologique de toutes ces personnes, et l'EMS l'a dit, Poutou l'a aussi dit, de ceux-là qui vous gérer. Ça doit être des personnalités vertébrées. Ça ne devra pas être des personnes qui viennent apprendre. Quelles sont les erreurs qui ont été faites par Copurette? C'est des militants qui se sont déguisés en indépendants, qu'on a injectés comme candidats, et dans le processus de sélection, ils ont bénéficié de certaines faveurs pour être à la tête et se faire positionner.
Polydore Tanguelli. Nous continuons d'échanger sur ces questions. Vous pouvez toujours mélanger vos différentes réactions, mais le temps de réagir aussi à cet autre aspect du problème. Dans l'architecture ou l'environnement de la sélection des candidatures qui pourraient être les prochains mandataires, il y a notamment les éléments liés à l'âge, le mode de candidater, mais aussi les compétences attendues. On parle au sujet de la limite d'âge. Entre 25 ans et 70 ans, on passe par la candidature en ligne et les compétences recherchées, c'est le mérite, les compétences, la transparence. Et si on veut être plus clair, on parle de compétences techniques, managériales et comportementales. Est-ce que, selon vous, ce sont là les variables qu'il fallait mettre en action pour ces candidatures?
Mais au plan théorique, ils ont 100%. Au plan théorique, ils ont 100%. Mais il faut reconnaître qu'il y a une approche criminelle qui suit, qui détecte cette théorie, de tous ces éléments qui sont levés de manière théorique. Et dans la pratique, il y a une criminalité qui s'est faite. On verra des personnes qui vont déléguer leurs enfants pour qu'on finisse leurs enfants. Donc, il faut une volonté politique au-delà de cette théorie, puisque tous ces critères sont universels. Être compétent, et avoir l'âge, patati patata. Mais il faut une volonté politique de libérer les mandataires, de rendre le mandataire libre. D'où, il faut vraiment une option politique légère. Voilà pourquoi je ramène la question au niveau même de la présidence de la République, qui doit avoir un regard direct sur ceux qui seront retenus et que les choses soient objectivées de manière horizontale et transversale. Qu'aujourd'hui, comme ça se fera en ligne, que les choses soient prouvées à la table, par exemple, du chef de l'État qui devra signer les... Voilà, cette personne aujourd'hui mérite, puisque dans la connexion en ligne de toute évaluation, les éléments objectifs prouvent qu'il est compétent. Et si tout cela n'est pas réuni, il n'y a pas une volonté politique de se débarrasser et que les entreprises ne deviennent pas une voie de récompense des militants des partis politiques, qu'on peut inclure aussi dans les processus de recrutement. Et le dire à la fin du processus de recrutement. Alors, une autre erreur qui a été commise pendant les anciens et qu'on donnait la lassitude à l'autorité politique de choisir les trois premiers candidats. Non, c'est pas sérieux, puisque le politicien agit par rapport à ses erreurs. J'essaie d'être pragmatique, au-delà de toutes les théories que les collègues ont évoquées. Le politicien choisit par rapport à ses enjeux et par rapport à ses erreurs. Le choix du politicien soit dicté par les résultats du processus de sélection.
Polydor Tangeli, les Congolais et différents les internautes et auditeurs sont nombreux à réagir et à s'interroger sur l'ingérence. Nous allons, pour vous, écouter cette réaction qui vient du Haut-Katanga. Puisque vous gardez la parole, vous pourrez rebondir à ce commentaire juste après.
Chris Piron-Pagnon, depuis Lubumbashi. Quand le dur est bon, le facile n'a pas de profit, dit un proverbe africain. Dans la théorie de développement, on remplace les causes aux effets et les effets aux causes. Penser que les problèmes d'entreprise publique, c'est la gestion du personnel, c'est déjà poser les thermomètres pour prélever la température, mais la vraie question reste, est-ce soigner cette fièvre détectée? À mon humble avis, les vrais problèmes, c'est l'ingérence politique, l'absence d'investissement et les détournements. Une entreprise ne se sauve pas par nomination ou recrutement, mais par une gouvernance qui transforme les compétences en résultats et les responsabilités en obligations. Pour citer, nous devons savoir que nommer un mandateur après un test et une première expérience, lui donner les moyens pour réussir en est la deuxième. Mais le plus grand, les sanctionner en cas d'échec devient un mot qui nécessite une dose d'attention.
Pour le leader Tangeli.
En fait, je salue Machi qui me complète dans tout ce qu'il dit, que les mêmes causes devront produire les mêmes effets et qui fait appel à un diagnostic. J'espère que cette décision est le résultat des diagnostics qui est rendu public et documenté et dont les intervenants dans le prochain processus devront s'en servir. En fait, ici, en matière de recrutement, le Congo n'a pas beaucoup à apprendre, puisqu'on a de l'expertise. Copirep, il y a eu des bureaux internationaux qui ont été recrutés. Mais il s'agit de l'homme congolais. Comme je vous ai dit, il y a eu une criminalité qui a été presque institutionnalisée de manière institutionnelle pour donner le résultat qu'il y a chez Copirep. Copirep n'a pas péché par des dispositions inefficaces de sélection. Mais c'est la boîte politique qui a broyé pratiquement le processus. Et après, on en a pu tenir compte 2 ans, 3 ans après. Cette déclaration est revenue à la Deuxième République, alors que l'enjeu du déclenchement de ce processus était lié au diagnostic fait à la Deuxième République. Donc, je salue l'intervention qui vient de Lubumbashi, et je pense que tout doit partir du diagnostic, mais aussi de l'homme congolais. L'homme politique congolais, mais aussi de l'homme qui a l'ambition de venir gérer l'entreprise publique. Puisqu'au fait, dans l'inconscient collectif congolais, on a comme impression que lorsqu'on a un mandat, c'est l'occasion de tailler sa part et de pouvoir se servir de grande envergure dans cet océan qui est l'État congolais. Donc, beaucoup de choses à faire en amont, plutôt que de mettre la charrue devant le bœuf, cher Donat.
Merci, Polydor Tangeli. Alain Poutou, pour vous, nous allons apprécier cette réflexion de Fabrice Sambili. Du Nord Kivu.
depuis la ville de Beni au Nord Kivu. Je salue l'idée de soumettre les postes de PCA, DG et DGA à un concours. En tant que sociodémocrates, nous défendons l'égalité des chances où les mérites et les compétences priment sur les privilèges. Donc nous pensons qu'il s'agit d'un pas vers une gouvernance plus juste et plus efficace. Cependant, on ne sait pas jusque-là qu'est-ce qui rassure la transparence et l'équité dans cette démarche. Parce que déjà, on détourne pendant qu'il y a des lois, on tire, on arrête et on viole pendant que les textes sont là. Surtout sachant que le système est pourri, je pense qu'il faut donner mandat à un cabinet international la responsabilité d'organiser ces concours et de corriger les tests. Sinon, nous autres, on ne va pas perdre notre état, sachant les systèmes et ses animateurs.
Alain Poutou.
Oui, tout à fait. Voilà, ça veut dire que Monsieur Kamoya, Monsieur Polidor et moi, nous disons exactement la même chose. C'est-à-dire, on salue la décision, c'est une bonne idée, mais nous sommes dubitatifs parce qu'on connaît les réalités. Donc, par exemple, vous parlez de l'âge, on met les plafonds à 70 ans, alors que la loi elle-même fixe les plafonds pour la retraite à 65 ans. Donc, quelqu'un déjà de 70 ans, on permet à ce que la personne puisse compétir dans ces processus. Il y a déjà un souci. Si déjà à 65 ans, on doit être retraité, c'est-à-dire la même personne qui a travaillé, qui était, par exemple, parce qu'il part à la retraite. Ça risque de donner l'impression aux gens que c'est juste peut-être une formule pour qu'on tourne des criers. Donc, c'est important qu'on soit, comme l'a dit M. Polidor, il y a des choses qu'il faut faire en amont. Hein, c'est très important. D'abord, mettre en place une commission de recrutement, une commission qui doit superviser ces processus. Nous pensons que puisque le point peut-être a été déjà débattu lors du Conseil des ministres, c'est sûr qu'ils ont déjà pris des dispositions pour mettre en place une commission qui doit superviser les processus. Que les politiques ne puissent pas en fait s'intégrer dans le processus. Même le ministère du tutelle peut, par exemple, intervenir en tant que demandeur de ces processus, mais pas vraiment un acteur dans l'opérationnalisation. Parce que la crainte que nous avons, et c'est ce qu'on a dit au début, toutes ces entreprises ont déjà des mandataires qui sont là. Et ces mandataires, lorsqu'ils ont été nommés, ils avaient pas, ils n'étaient pas passés par ces processus. Alors, pensez-vous que quelqu'un qui est déjà aux affaires va accepter de céder sa fonction facilement? Mon co-débatteur l'a dit, on risque de voir soit on envoie les enfants, on les recommande parce que si les papas revenaient aux affaires, on s'est déjà détecté. On peut passer par les enfants, par les neveux, par les nièces, mais pour que les processus soient transparents, soient objectifs, je pense, comme le même, c'est que M. Polidor venait de dire, il faut déjà en amont qu'on puisse mettre tout ce qu'il faut mettre en place pour assurer la fiabilité du processus.
Vous êtes un peu dans cet environnement en permanence, Alain Poutou, de la reconversion professionnelle, des ressources humaines et justement des personnes qui passent souvent d'un emploi à un autre. Et c'est sûr que vous avez une bonne connaissance de ce qui se passe un peu au niveau international. Comment les autres pays, les autres entreprises qui fonctionnent avec efficacité font pour mettre en place un mécanisme qui ne retient que les technocrates et qui empêche ces technocrates d'être à la solde des acteurs politiques?
Mais c'est très compliqué, monsieur le journaliste. C'est très compliqué d'abord au départ. Parce que pour que quelqu'un puisse postuler à un poste, il y a d'abord, je vous ai dit ici, la fiche des postes. Pour les cas de mandataire public, il y a la fiche de mandat qui décrit en fait les responsabilités de la personnes qu'on doit recruter. Et de l'autre côté, il y a les profils de poste, c'est-à-dire les exigences. Même lorsqu'on doit faire la présélection, on doit tenir pied qu'on a reçu. On regarde le parcours de la personne. Mais vous imaginez une personne qui était mandataire, soit dans le passé ou pendant que le processus est en train d'être... les personnes étaient mandataires dans une entreprise X, va maintenant postuler dans une entreprise Y, donc ailleurs, je sais que ils finiront par les faire bien améliorer les choses. Ils se sont basés des erreurs commises dans le passé. Donc, les standards consistent à afficher d'abord les fiches de poste, comme je vous ai dit, fiches de mandat, et laisser les gens, parce que par exemple, vous avez dit ici qu'on doit postuler en ligne. On connaît très bien les perturbations peut-être de connexion Internet qu'on a. On connaît très bien parfois, il y a certaines plateformes qui ne fonctionnent pas correctement. Quelqu'un peut envoyer son dossier, peut-être le dossier n'est pas parti. Même lorsqu'on peut faire la sélection, qui reçoivent les dossiers? Est-ce que ceux-là qui sont chargés de réceptionner les dossiers objectifs pour récupérer, enregistrer tous les dossiers qui atterrissent, ou alors ils vont faire la sélection en tenant compte des désobédiences, des tendances? C'est d'où la crainte en fait des auditeurs comme celui qui vient de
s'exprimer à l'instant.
Voilà.
Tout à fait. Merci Alain Poutou. Nous revenons à vous dans un instant pour les conclusions de cette émission. Lems Kamoanya, nous écoutons avec vous le commentaire qui nous vient de Bukavu. Ensuite, vous réagissez à tout ce que vous avez entendu jusqu'à ce point.
Litiza Kulichevariste depuis Bukavu, province du Sud-Kivu. La volonté du gouvernement de rompre avec les quotas politiques et de privilégier le mérite, la compétence et la transparence est, à mon avis, une initiative louable. Mais une question fondamentale mérite d'être posée. Comment garantir l'égalité des chances aux Congolais vivant dans les territoires aujourd'hui sous occupation à l'est du pays? Ces compatriotes sont-ils réellement en mesure d'accéder à la plateforme, de constituer leur dossier et de participer aux épreuves dans les mêmes conditions que ceux vivant dans les zones sous contrôle de l'État? La méritocratie ne doit pas seulement être proclamée. Elle doit être accessible à tous les Congolais, y compris ceux que la guerre empêche matériellement de participer. L'État devrait donc prévoir des mécanismes spécifiques pour ne laisser aucun talent congolais derrière tout, en intégrant un report éventuel du délai de dépôt des dossiers.
Lems Kamoanya.
Merci beaucoup. Je viens de bien suivre la préoccupation de cet auditeur qui est pertinente. D'abord, en ce qui concerne la soumission des dossiers, d'abord, le processus lui-même, il concerne tous les Congolais, je pense pas seulement ceux qui sont au pays, même ceux qui sont à l'étranger. Tout celui qui est Congolais peut postuler. Et à ce que je sache, l'Internet, c'est un boulevard qui est mondial. Tout le monde, quel que soit l'endroit où il est, il a la possibilité de pouvoir postuler son dossier. Et je ne pense pas qu'il y ait une certaine exclusion. Peut-être la préoccupation, elle est fondée. Si parmi ceux-là qui aujourd'hui se retrouvent dans les territoires qui sont confrontés par la crise sécuritaire actuelle sont présélectionnés et qui doivent maintenant venir participer aux tests écrits et même à l'interview, à ce moment-là, il faudrait qu'il y ait des facilités et peut-être un certain nombre de dispositions qui sont mises à leur niveau pour permettre leur participation. Mais en ce qui concerne la soumission, je pense que les 2 semaines qui ont été accordées sont amplement suffisantes pour que tout le monde en ligne puisse arriver à déposer son dossier, mais les mesures de faveur qu'il évoque, peut-être il faut les considérer au moment de passer à des tests écrits ou à des interviews qui vont nécessiter quand même que les déplacements et un certain nombre de précautions d'autorisation soient données pour que tout le monde puisse avoir accès, participer à d'autres étapes de ce processus. Mais comme vous l'avez dit, je tiens aussi à remercier Monsieur Alain Poutou et Polycarpe pour leurs interventions. Je crois Il y a une différence fondamentale qu'il faut retenir. Le processus actuel ne concerne pas l'ensemble de ce qu'on appelait en son temps entreprise publique, mais qui avait été séparé lorsqu'il y avait la réforme qui avait été menée sous l'égide du copyright. Donc aujourd'hui, cette sélection ne concerne que les entreprises commerciales. Il y en a 20 au total, on a commencé par une première série de 5, mais les établissements publics ne sont pas concernés. Vous vous rappellerez qu'il y a 2 mois, le président de la République a procédé à la nomination des mandataires. Ces mandataires-là, ces établissements publics, ne sont pas concernés par ces processus. Quand vous prenez des entreprises comme OGFREM, OCC, Transco, je ne sais pas quoi, toutes ces entreprises sont hors sélection. Ici, on a pris que les entreprises qui sont considérées comme des sociétés commerciales, pas des établissements publics pour lesquels les pouvoirs discrétion du chef de l'État a suffi de mettre ces personnes à la tête de ces entreprises-là. Mmh. Alors, ça ne concerne qu'une partie. L'autre nuance qu'il faut considérer ici, dans ce processus comparativement à celui qui avait été fait par les copyrights, cette fois-ci, on permet même aux personnes de postuler comme administrateurs. C'est-à-dire, on aimerait que tous les postes, tous les grands postes de gestion, qu'ils soient ouverts à la compétition. Ce qui n'était pas le cas avant, avec l'espoir que tous ceux-là qui vont se retrouver, soit au niveau du conseil d'administration, soit au niveau de la direction générale, que toutes ces personnes soient sélectionnées sur une base compétitive et des personnes qui connaissent la société, qui connaissent les secteurs et qui ont des compétences. Ça change beaucoup au niveau des équilibres du pouvoir et au niveau des interactions. Parce que j'ai vu, M. Poulkat, il a soulevé la question de se dire, même M. Alain Poutou, vous avez des conseils d'administration qui deviennent des pesanteurs parce que vous avez des administrateurs qui sont des politiques qui peuvent bloquer certaines décisions. Mais je pense que cette fois-ci, on s'est dit qu'on prenne tous les gestionnaires, tous ceux qui sont dans ces organes de décision de l'entreprise, que tout soit sélectionné. Donc, c'est une fois de plus pour arriver de départir de ces organes les personnes qui sont inféodées aux partis politiques. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut également saluer. Alors, on a évoqué le problème du cadre légal. Ici, je dois rassurer également les gens pour dire, suite à la réforme qui avait été menée, les entreprises qui sont concernées aujourd'hui, ce sont les sociétés commerciales qui sont régies par les droits communs. C'est-à-dire, c'est les mêmes droits applicables que même dans les sociétés privées. Ces entreprises n'ont pas une législation particulière, comme c'est le cas des établissements publics qui sont régis par la loi portant disposition générale applicable aux établissements publics. Donc là, elles sont régies par les droits communs. Les directeurs généraux, ils gèrent assistés par un adjoint. Il y a un conseil d'administration et l'État qui en est propriétaire organise des assemblées générales où certaines préoccupations arrivent à être élevées. Donc je dirais aujourd'hui, on ne peut pas avoir une crainte qu'on a mis la charrue devant les bœufs. Cette crainte est levée parce que ce sont les entreprises qui sont gérées sur les mêmes bases que les entreprises privées parce qu'elles sont aussi régies par les droits communs. Alors, un autre élément important, je crois que c'est le premier auditeur qui est intervenu, il y a un problème fondamental. Aujourd'hui, recruter un mandataire... Bon, d'abord, je vais revenir sur M. Alain Poutois évoquer le problème du processus de sélection. Je crois que c'est le ministère du portefeuille, mais je crois que le ministère a sous-traité le processus à un cabinet spécialisé. Et c'est aussi bien que ce cabinet ne soit pas physiquement à ce stade en contact avec les candidats parce que les soumissions sont faites en ligne. Vous ne savez pas à qui vous allez vous adresser si pas ces contacts en ligne où il y a des formulaires à remplir. Sur base de ces formulaires, on regarde est-ce que la personne qui a soumissionné, est-ce qu'elle connaît le secteur d'activité, elle connaît l'entreprise, est-ce qu'elle a déjà eu à gérer, elle a des compétences. Donc tous ces critères-là, les exigences pour les postes sont reprises à travers les différentes fiches qu'on peut retrouver lorsque la personne cherche à postuler les candidats. Déjà, en postulant, quelqu'un peut savoir pour dire quelles sont mes chances pour être sélectionné ou pas, parce que la fiche a été conçue de telle manière que celui qui n'a pas de capacité, il comprendra que ses chances sont minimes. C'est déjà un premier test éliminatoire. Donc de ce côté-là, il y a quand même une certaine assurance que il y a un travail préalable qui a été très bien fait pour résumer quand même les éléments les plus saillants qui doivent fonder la candidature, et même la personne qui postule doit regarder est-ce que je me retrouve dans tout ce qu'on a exigé, ou lui-même en remplissant, il va comprendre que vraiment mes chances sont minimes parce que je ne rentre pas dans les critères qui ont été fixés. Donc cela aussi a été fait, et nous tenons à saluer quand même ceux-là qui ont conçu cette fiche et cette société qui est en train de recruter. Mais j'aimerais terminer par un problème fondamental. Aujourd'hui, recruter les mandataires, je crois que c'est monsieur, c'est Polycarpe ou Polydor.
Polydor Tangeli.
Polydor. Monsieur Tangeli, oui, monsieur Tangeli, il a évoqué ça. Aujourd'hui, recruter les mandataires, c'est bien beau, mais nous insistons sur le fait qu'il n'y ait pas de pression au niveau, ce qu'on appelait ministère de tutelle, mais quand bien même c'est un peu réduit au niveau des entreprises commerciales. Et aussi, le fait de recruter un mandataire, aussi expérimenté soit-il, ne garantit pas la performance et la gestion de la société. Regardons aujourd'hui l'environnement de ces entreprises, regardons leur situation sociale, regardons leur situation financière, regardons aujourd'hui leur outil de production. C'est là que l'intervention de l'État devient déterminante. Parce que si l'État n'accompagne pas, on dit même la femme la plus belle ne peut donner que ce qu'elle a. Un mandataire peut être intelligent, il peut proposer des réformes, mais il faut que ces réformes soient rapidement acceptées par l'État pour lui permettre de relancer l'entreprise. Je vais prendre deux cas pour illustrer ma pensée.
Très rapidement, puisque nous sommes en train de conclure.
Oui, oui. Le premier cas, c'est la situation sociale. Il y a des sociétés où il y a un effectif qui est pléthorique. Alors, un mandataire, il n'est pas là seulement pour payer les salaires. Alors, quand il va demander à l'État, est-ce que nous pouvons réduire le personnel, il faudrait que l'État puisse aussi l'accompagner dans ces domaines. C'est une réforme importante. L'autre domaine, c'est sur le plan financier. On sait que l'État, de moins en moins, il met les moyens pour financer ces sociétés. Alors, il faut laisser au mandataire proposer des solutions qui peuvent permettre de recourir à des financements innovants tels que l'ouverture du capital ou d'autres possibilités, de façon à ce que ils puissent nouer des partenariats et que ces décisions-là soient approuvées par l'État propriétaire. Si l'État propriétaire lui-même bloque les grandes réformes, on peut sélectionner des technocrates, les personnes qui sont intelligentes, mais si leurs réformes sont bloquées par soit le conseil d'administration ou soit l'Assemblée générale ou l'État lui-même, à ce moment-là, tout ce travail que nous faisons ne peut pas donner des résultats satisfaisants parce que le mandataire aura manqué les moyens et les instruments qui peuvent lui permettre d'asseoir la performance technique et financière de ces entreprises. Donc voilà un peu les éléments que je voulais évoquer.
Merci Lems Kamonia, et je considère ça comme votre mot de la fin. Alain Poutou, expert en reconversion professionnelle, coordonnateur en formation de Africa RH Consulting, cabinet d'expertise en ressources humaines et appui aux personnes en transition de travail. Est-ce que ce processus de méritocratie et de tous les éléments évoqués ici pour la sélection, est-ce que ce processus est-il le meilleur de tous quand on sait que la RDC, comme beaucoup de pays africains, ce sont des sociétés bantoues avec des influences relationnelles et politiques? Comment on fera pour éviter justement ces risques d'influence politique?
Alors, encore une fois, monsieur le journaliste, nous félicitons, encourageons l'initiative prise par le gouvernement en mettant fin avec les méthodes qu'on a beau décrier ici. On donne des postes en tenant compte de poids politiques. C'est la répartition entre les états-majors de partis. Et pour mettre fin à ça, je pense que c'est dans le processus en soi. Je crois qu'à chaque étape, il est vraiment recommandé d'afficher des listes qui sont plus transparentes, que tout le monde voit qu'effectivement, c'est ce qu'on est en train de faire.
Merci. Polydor Tangeli, expert en matière de travail, secrétaire exécutif du groupe Mossala, groupe d'expertise en intervention psychosociale en faveur des travailleurs, des demandeurs d'emploi et des jeunes désœuvrés. Pour vous, quels sont les éléments qu'il faut absolument mettre en place? Parce que l'objectif, c'est les performances, c'est la technocratie et arrêter les influences politiques.
Bon, je crois le maître mot du changement, c'est la dépolitisation. Puisqu'au fait, le collègue Kamoigna a évoqué le fait qu'on a demandé à tout le monde de postuler, même pour être mandataire. Mais lorsqu'on est membre d'un parti politique et qu'on postule, vous voyez, le parti sera derrière vous pour soutenir votre candidature, puisqu'il s'agit d'une question d'enjeu politique. Je pense que c'est à ce niveau-là qu'il fallait que les préalables soient réunis et que, au finish, le politique libère cette problématique et s'en débarrasse pour objectiver le processus, enfin qu'il produise les résultats escomptés, tout en sachant qu'il faut assainir l'environnement, mais pas seulement au niveau managérial, mais au niveau de l'accompagnement de l'État.
Merci à tous trois pour votre présence dans cette émission de ce soir. Dialogue entre Congolais d'aujourd'hui s'arrête ici. Merci à Sylvain Baogwe, Benjamin Mundumbi, Echembe et Loku pour leur collaboration, pour la production de l'édition de ce soir. Donald Madimba, c'est moi à la présentation. Merci de votre attention. Au revoir.